Nous avons maintenant le plaisir d'accueillir un historien éclectique, jugé plutôt. Il est spécialiste de Fantomas, de Biribi, de l'histoire du crime et de sa répression en France au XIXe siècle, de la presse, des pratiques de l'enquête sociale et j'en passe. Nous recevons Dominique Khalifa, bonsoir.
Bonsoir.
Pour qu'il nous explique ce qu'est, à l'occasion de la parution des noms d'époque, la chrononymie que nous pratiquons vraisemblablement, comme M. Jourdain faisait de la prose, sans le savoir. Lorsque nous disons, tiens, c'était à la Renaissance ou c'était au Moyen-Âge, c'est ça? La chrononymie.
Absolument, c'est de donner des noms aux périodes, de donner des noms au temps. Tout le monde sait que les historiens découpent le temps en tranches, qu'ils périodisent, mais ils ne se contentent pas de découper, ils nomment, ils dénomment. Et en fait, la nomination, ce processus-là, a autant, sinon plus, d'enjeux, de signification que de le découper.
Parce qu'il y a des enjeux politiques et des enjeux symboliques. Quand on nomme une époque, belle époque, année folle.
Donner un nom n'est jamais neutre, effectivement. Ça procède d'intentions, de conflits, de rivalités. Un exemple.
La Belle Époque, précisément.
La Belle Époque, oui. Si vous voulez, là, il y a consensus sur la Belle Époque. Parce que quand l'expression est arrivée, c'est-à-dire très tardivement, hein, au début de la Seconde Guerre mondiale, hein, d'ailleurs sur un plateau de radio, c'est quand même un truc important, il y avait tellement. Tout le monde était d'accord pour penser effectivement que les années 1900 étaient très belles. Mais si on reste précisément sur cette question de la guerre, par exemple, vous voyez bien que si on appelle la Seconde Guerre mondiale année noire, comme on a fait un article dans le bouquin, ou bien occupation, ou bien régime de Vichy, on ne va pas exactement mobiliser les mêmes notions, les mêmes imaginaires, les mêmes responsabilités.
Qui nomme, qui fait la chrononymie? Ce sont exclusivement des historiens ou c'est quelque chose de plus diffus?
Non, c'est très rarement, voire jamais des historiens. Parfois. D'abord, il est assez difficile de savoir comment une expression arrive. On arrive parfois à trouver...
Un romancier...
Alors parfois, par exemple, le fameux Gilded Age aux États-Unis.
L'âge d'or.
L'âge doré, l'âge plaqué,
jusqu'à la crise de 29, c'est ça.
Jusqu'au début du siècle. Ouais. C'est le romancier Mark Twain, par exemple, qui l'a nommé. Mais la plupart du temps, ce sont des noms qui procèdent de l'ère du temps. Et on sait, les 30 Glorieuses, c'est Fourassier.
Jean Fourassier.
On sait, il l'a titré, c'est le titre de son bouquin en 79. Les 30 Glorieuses pour caractériser la période de croissance économique, de prospérité, de consommation après la Seconde Guerre. Mais la plupart du temps, c'est très difficile de savoir effectivement d'où vient. Par exemple, la fin de siècle. Qui a dénommé la fin de siècle? Et puis les résurgents. Il y a une expression, elle nomme une époque, mais elle est recyclée, elle revient.
Dominique Khalifa, à propos des 30 Glorieuses, on entend souvent qu'il y aurait eu, après, les 30 Piteuses. Alors, est-ce que ça peut être gravé dans le marbre, caractérisé, ou est-ce que c'est une expression qui n'est pas véritablement assumée et validée?
Est-ce qu'elle prend? Alors, on a beaucoup critiqué les 30 Glorieuses pour expliquer que c'est pas vrai, que dans les années 50, en 54, l'abbé Pierre qui appelle, c'était pas pour montrer que c'était la prospérité partout. Donc, d'autres historiens ou politistes ont contesté, ont proposé les 30 piteuses, l'autre les 20 décisives, l'autre les 13 heureuses. Peut-être que ça prendra. La question, c'est quand est-ce qu'une expression, qu'un chrononyme, donc, arrive à prendre, il prend ou il prend pas. Le cimetière des chrononymes perdus, oubliés, il est plein.
Notre époque sera, vous pensez, labellisée par un chrononyme?
Alors évidemment, je ne pouvais pas, en ayant dirigé ce bouquin sur 14 noms du temps, ne pas me poser la question de comment on nomme. D'abord, la première chose qu'il faut dire, c'est qu'on nomme très. Enfin, il faudrait une intelligence de l'instant. Une intelligence historique extraordinaire pour pouvoir pointer là les caractères, les traits vraiment pertinents. Donc la plupart du temps, c'est rétrospectif. Mais quand même, je me suis posé la question, comment...
Vous vous posez bien la question, avec les gestes, faites ça bien.
Alors, il y a une certitude, on n'est plus au XXe siècle. Personne ne peut dire quand on est sorti du XXe siècle, en 89, en 93, en 2001, on ne sait pas, mais on sait qu'on n'est plus au XXe siècle. Maintenant, où est-ce qu'on est ? La seule chose que j'ai trouvée et qui me paraît très intéressante, très significative, c'est la multiplication d'un certain nombre de préfixes, néo, il y a beaucoup de néo, et puis encore plus des postes. On vit l'âge du post-moderne, du post-structuraliste, du post-démocratie, du
post-vérité.
Post-vérité. Cerise sur le gâteau, des collègues américains ont même inventé la post-modernité, parce que la post-modernité, c'est ringard. Donc, et cette idée, effectivement, d'utiliser le mot post, je pense que ça veut dire quelque chose. Ça dit assez bien qu'on est... on voit bien d'où on est parti. On voit pas du tout là où on peut aller. On n'a surtout même pas le désir d'imaginer une direction.
Nous sommes au milieu du guet, en quelque sorte.
Un peu d'effacement ou d'aveuglement face à l'effacement de l'avenir. Ça, je crois que ça caractérise assez bien le moment que nous vivons.
Merci.